Alors nous sommes de retour. On n'entend plus la musique parce qu'on l'a éteint.
On l'a éteint.
Et là, donc on se retrouve de nouveau en direct sur le parc de Romainland au parc des Mets de la Chaussée Saint-Victor pour le Run for Dani.
Oui, courir 24 heures pour France Alzheimer.
C'est ça.
41.
Exactement. Et ça tombe bien, nous avons à la table le président de France Alzheimer 41, monsieur Jean Heurteau.
Bonjour.
Par ailleurs, conseiller départemental.
Non, pas du tout.
Ah, je croyais que vous...
Non, je suis adjoint à la mairie de mon niveau.
Ah, vous êtes néanmoins élu.
Voilà.
Et donc, nous avons monsieur Mercier, docteur de son état, spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Vous êtes gériatre.
Bonjour.
Bonjour. Donc, merci de répondre à notre invitation.
Oui.
Et ça tombe très bien parce que vous allez pouvoir un peu éclairer nos lanternes concernant cette maladie qui est le thème du rassemblement d'aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer, qui reste pour beaucoup d'entre nous un terme assez souvent utilisé, mais de façon souvent assez péjorative. Donc si monsieur Mercier, docteur Mercier, vous voulez bien nous éclairer un petit peu sur cette maladie qui a l'air d'être de plus en plus courante, est-ce que je me trompe si je dis ça?
Alors de plus en plus courante, je suis pas sûr. Mieux dépister, oui. Dépister plutôt, oui. Parce que maintenant, il y a des professionnels qui sont bien, bien formés. Et donc c'est ça, en fait. On a l'impression qu'il y en a plus. Mais
on le sait plus tôt et mieux.
Voilà, voilà. C'est un diagnostic, en fait, qui est très difficile à faire. C'est un diagnostic qui se fait sur une... Comme nous, on le fait en consultation, hein, sur une... perte de mémoire, les gens viennent nous voir, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe. Et c'est à nous, en fait, à partir de ce fil, essayer de remonter, voilà, et de savoir si cette perte de mémoire correspond à une maladie d'Alzheimer. Le diagnostic précis, en fait, il faudrait aller prendre un morceau de cerveau pour l'avoir. Donc, concrètement, c'est impossible à faire. Donc, en fait, c'est un argument, ce sont des faisceaux d'arguments qui nous amène au diagnostic. On a malgré tout une ponction lombaire où on peut rechercher des marqueurs de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire des protéines issues de la destruction des cellules cérébrales. Et là, on, avec tout ça, c'est-à-dire l'examen clinique, l'historique du malade sur cette perte de mémoire, les radios, un scanner, une IRM, une ponction lombaire éventuelle, une prise de sang, l'évolution de la maladie, on n'est jamais pressé pour avancer un diagnostic. Eh bien, on arrive progressivement à avancer le nom de cette maladie d'Alzheimer.
Pour rester toujours très concret, pour nos auditeurs, que nos auditeurs comprennent bien, est-ce que, en quelques mots, on peut... je ne sais pas si c'est possible, on peut décrire les symptômes de cette maladie.
Alors on peut les décrire, bien sûr. Comme je disais, le premier des symptômes, dans 80%, 90% des cas, c'est quand même la perte de la mémoire. Voilà. Alors ce n'est pas perdre ses clés, ce n'est pas perdre ses lunettes, on les égare, on les retrouve. Hein, sinon on serait tous inquiets, on serait tous... en train de se dire, est-ce que j'ai pas l'Alzheimer? Voilà.
Oui, parce que nous, ça nous arrive souvent de perdre nos clés. Hein.
Voilà, mais c'est finalement normal, hein, parce qu'on a un disque dur dans notre cerveau.
Et c'est puis... en cela où tout à l'heure je disais que la maladie était un peu galvaudée, parce que dès l'instant où on a une perte de mémoire, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, t'as Alzheimer, quoi.
Voilà, c'est un petit, enfin, c'est un petit peu ça.
C'est quelque chose de familier dans le langage, mais pour connaître tous les symptômes véritaux.
Alors on a un disque dur en fait à notre naissance et puis on empile en fait tous les souvenirs au fond de notre cerveau pour les plus anciens et puis à la fin du disque dur pour notre fin de vie. Voilà, donc le point d'appel c'est ça. Hein. Et puis ensuite je pense au papa de Julien, progressivement en fait on va avoir des troubles du langage. On va perdre ses mots, on va perdre le sens de ses phrases, on va comprendre de travers, comme on dit. Hein. Et puis ensuite, on peut avoir des troubles visuels, on peut avoir des troubles également, ce que nous appelons praxiques, c'est perdre la notion d'utilité, d'utiliser une couteau, une fourchette.
Donc ça a des incidences sur la motricité
sur
des
la
personnes.
Motricité, voilà, exactement. Et puis ensuite, après, on a les troubles du comportement aussi. On perd notre raisonnement, on perd notre cohérence. Hein. Voilà, donc ça, c'est, oui. Ça se fait sur des années. Voilà.
Et c'est une maladie qui s'attaque directement à notre identité. On se perd au fur et à mesure.
Oui, tout à fait. On perd son identité, mais c'est dans notre comportement. Hein. Ça, c'est lié en fait à notre cerveau. Ce qui est très important en fait, et c'est le tragique de cette maladie, c'est que vous savez, quand on n'a plus la mémoire, on ne sait plus d'où on vient et on ne sait plus où on va. Et c'est exactement ça. Et ça, on peut parfaitement l'étendre à notre société. Une société qui perd son passé, elle va perdre aussi son avenir, ne sait pas où on va. Et ça, c'est terrible, parce que le malade Alzheimer, lui, il ne sait pas. Il marche, mais il ne sait pas pourquoi. Et il va marcher pendant des heures. Il va déambuler, comme on dit.
Et alors, est-ce que c'est une personne à la dérive ?
Pas du tout.
Non ?
Pas du tout. C'est pas une personne à la dérive. À la dérive, ce serait peut-être quelqu'un qui aurait trop bu, on part à la dérive, il ne sait pas où il va. Non, c'est pas ça, c'est qu'il cherche quelque chose. Il cherche quelque chose. Mais il n'a plus la mémoire pour s'en souvenir. Il oublie à mesure. Vous voyez, on est dans un autre domaine. Hein.
Vous exercez à l'hôpital de Blois, donc, dans l'unité... Alors, vous allez le dire vous-même.
C'est un nom terrible.
C'est ça.
Unité cognitive et comportementale.
Voilà.
Bon, ça veut dire cognitive, c'est en fait notre connaissance, c'est notre cerveau. Et puis comportemental, c'est le comportement. En fait, moi, j'accueille, si vous voulez, des patients qui font des troubles du comportement, souvent violents, agressifs. On nous les amène dans le service, et ce sont souvent des patients Alzheimer. Ce qu'on appelait autrefois, c'est encore un démon qui a fait cette bêtise. Il a tué sa femme, il a pris le pistolet, ou il a tiré sur la police, etc. C'est de la psychiatrie de la personne âgée. Et dans ce pool de malades, il y a beaucoup d'Alzheimer, en fait. Ils savent pas où ils vont, ils savent pas ce qu'ils font. Ils ont perdu cette intelligence, cette cohérence.
Quand vous dites... On nous les amène. C'est la famille ou les services spécialisés ou dans des états d'urgence, ça peut, le SAMU ou
Absolument.
Oui,
oui, tout à fait. On a le cas d'une patiente que la famille avait amenée aux urgences pour les troubles du comportement. C'était il y a une dizaine de jours. Et en fait, la personne arrive aux urgences avec la famille. Elle s'est enfuie, elle a fugué, en fait, elle est repartie. Dans les rues de Blois, la nuit, en fait, c'est les pompiers qui l'ont retrouvée, errée dans la ville, qui nous l'ont ramenée à ce moment-là. Donc, elle a été
prise en charge,
contentionnée, etc. Puis, elle est arrivée dans le service. Charge à nous, après, de comprendre tout ce qui s'est passé. En fait, on a tout compris. On a fait le fil de sa vie sur les dernières années. C'est une histoire aussi tout à fait dramatique. Mais c'est bien parce que ces gens-là ne sont plus étiquetés de fous, de démons, etc. On leur donne... Ils ont une maladie. Mmh. Ils ont une maladie d'Alzheimer.
On peut nommer les choses.
Voilà. Ouais. Et d'un seul coup, si vous voulez, ça apaise tout le monde. Mmh. On sait ce qui va se passer maintenant. On va les prendre en charge de telle façon. L'hôpital est bien structuré pour ça. Monsieur Horto nous parlera aussi des structures de ville. Et donc, on a mis en place, en fait, toute une grille autour du malade. Et ça, c'est formidable.
Et est-ce que pour chaque personne, le chemin est identique dans la maladie ? Chaque personne a les mêmes effets, les mêmes problématiques
Alors c'est ça notre difficulté en fait, ouais. C'est qu'on peut pas mettre...
Ce serait trop facile.
Ouais. Les symptômes de la maladie d'Alzheimer dans une même case. En fait, il suffirait de cocher les cases, puis à la fin, on fait un algorithme, et puis l'ordinateur, il va vous dire si vous avez l'Alzheimer ou pas. Eh bien, pas du tout. Ça, c'est impossible. Et l'ordinateur n'y fera rien. L'intelligence artificielle, là-dessus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a autant de maladies d'Alzheimer que de personnalités.
D'accord.
Voilà. Comme quoi, aussi, on a été élevé, notre éducation, notre histoire de vie, notre génétique, très important, notre génétique. On ne maîtrise pas encore la notion d'inné, d'acquis, le pourcentage. Et ça, c'est très important parce que ça nous donne une personnalité. Et donc, quand il va y avoir le début de la maladie dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on va ce quelque chose dont on ne connaît pas, quelque chose qui se met dans une cellule et qui va commencer à la détruire. Et là, le processus est parti. Et dans 10 ans, vous savez que vous perdez la vie.
Oui, parce que en fait, le constat est assez terrible. Apparemment, on ne guérit pas d'Alzheimer.
C'est une maladie.
C'est une maladie
neurodégénérative. Voilà. C'est une maladie incurable. Hein. C'est le drame, en fait.
Aujourd'hui, la recherche.
La recherche avance
sur des possibilités, ouais. de soulager.
Oui. J'étais encore à un congrès à Paris là au mois de février. On sent que les choses avancent. Les chercheurs, vous savez, celui qui va trouver le mécanisme de début de la maladie, il va avoir le prix Nobel. Hein. Donc, il va y avoir derrière cela des débouchés industriels sur le diagnostic. Il va y avoir des débouchés probablement sur les médicaments. Donc il y a un enjeu aussi financier derrière qui est très important. Et la recherche se rapproche de l'argent. Sans argent, la recherche ne peut pas avancer. Et les Américains sont très très forts. Les Chinois sont maintenant très forts. Et tout le monde recherche. Donc on fait beaucoup de progrès.
C'est une maladie dont on ne guérit pas actuellement. Mais est-ce que c'est une maladie dont on meurt, dont on décède à terme?
Alors, Pour l'instant, donc, il n'y a pas de traitement. On a juste un traitement symptomatique que nous donnons, c'est-à-dire pour essayer de stimuler un petit peu les cellules de la mémoire. Mais ça ne guérit pas la cause, parce qu'on ne la connaît pas, cette cause. Ouais. Donc, on ne l'a pas. Et donc,
Est-ce qu'on en meurt?
Alors, c'est à tous les coups. Hein.
C'est à tous les coups.
Ouais, à tous les coups, voilà. Hein. Mmh. Donc, c'est pour ça que nous, quand on pose le diagnostic, on prend son temps. Mmh. Parce que vous imaginez le drame, évidemment, quand vous allez poser le diagnostic à la famille.
Voilà.
Un cancer, ça se soigne. L'Alzheimer, non. Mm. Donc, il faut faire très, très attention. Et on est très prudent.
Oui. J'allais dire, c'est une grande responsabilité.
C'est une très grande responsabilité.
Oui, tout à fait, de l'annonce du diagnostic, oui. En effet. Oui.
Et tout à l'heure, on parlait de sa perte d'identité et de la réaction individuelle dans la maladie. En fait, on ne se souvient plus d'où on vient, mais néanmoins, de là d'où on vient, notre maladie évolue d'une certaine façon.
C'est ça aussi qui participe au drame, c'est-à-dire qu'on les dépiste plus tôt. Donc, ça veut dire que les malades ne sont pas encore très malades et qu'ils comprennent encore des choses.
Ouais.
Quand vous allez lui dire qu'il a la maladie d'Alzheimer et qu'il va en mourir, là, vous avez une responsabilité très importante. Mmh. Mais on l'assume totalement parce que on aura pris tous les partagé la discussion. On a à l'hôpital donc des séances de discussion. Quand on a un doute sur la maladie, on fait venir un pool de médecins et on discute sur oui ou non est-ce que ça peut être une maladie d'Alzheimer. Voilà.
Et alors, est-ce que c'est un avantage de savoir qu'on est atteint de la maladie ou
Alors ça, c'est une question fondamentale.
Ouais.
C'est une question humaine. Pourquoi aller dire à un malade qui n'est pas encore très malade, qui va se rendre compte de la tragédie qui lui arrive, puisqu'on n'a pas de traitement? Alors, il faut lui dire.
Ouais.
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, ce malade-là, il va falloir qu'on l'aide. Il va perdre progressivement toutes ses fonctions. Il ne saura plus s'habiller, il ne saura plus se laver, il va devenir incontinent. Donc il faut l'aider. Il faut l'aider dans son quotidien. C'est là le rôle de l'association Alzheimer. Et donc, il faut aider la famille, il faut aider l'entourage, et il faut aider les structures. Toutes les structures avoisinantes dans cette toile d'araignée qui se met en place autour du malade pour l'aider et l'accompagner le plus longtemps possible est très importante. C'est pour ça qu'il faut le dire.
Voilà. Vous nous avez fait une superbe passerelle pour parler de France Alzheimer 41, notamment. Et donc, il y a tout un environnement qui doit être mis en place lorsque la maladie est décelée. Et évidemment, plus on avance dans la maladie, et plus cet environnement doit être installé, précis, organisé.
Voilà. Donc nous, en fait, on a plusieurs missions. On a déjà une mission d'information. Puisqu'il faut informer notamment les familles, les conjoints ou les aidants familiaux. On a une mission de prendre en charge un après-midi ou deux par semaine gratuitement pour soulager les aidants. Qu'est-ce que c'est que les accueils de jour aujourd'hui? C'est le travail des associations. Il a fallu 20 ans pour que les pouvoirs publics comprennent qu'il faut monter les accueils de jour. Et puis on a des missions de formation des aidants. En fait, on a mis en place la mesure 2 du plan Alzheimer. Donc on a 3 psychologues qui tournent sur le département. Cette formation est d'une durée d'une quinzaine d'heures. Et elle permet aux aidants familiaux, conjoints ou enfants, de déculpabiliser. Qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer? Qu'est-ce que c'est être l'aidant familial? Et puis on a mis en place, il y a quelques années, avec les médecins de la consultation mémoire, un groupe de parole sur place. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on a des psychologues qui viennent. Et ce groupe de parole, donc, qui est carrément à la consultation mémoire, permet aux aidants de s'inscrire et de venir au groupe de parole.
Donc là, vous parlez beaucoup d'aidants. Ça, c'est une terminologie qu'on retrouve essentiellement dans votre environnement. Un aidant, c'est en gros une personne bénévole qui n'est pas professionnelle.
Non,
et qui est en lien direct.
Quand on parle d'aidant familial, c'est le conjoint ou l'enfant.
Ouais, ouais. Qui sont en lien direct.
Après, il y a les aidants professionnels. Comme là, aujourd'hui, on a l'équipe mobile Alzheimer de la DMR. On a
donc ça, ce sont
l'accueil
des
de jour les mieux autistes.
Ce sont des équipes professionnelles, ça.
C'est des équipes professionnelles.
Voilà. Ouais. Donc, les bénévoles familiaux, de l'environnement familial se relaient en permanence avec le milieu professionnel.
Tout à fait. Ouais. Donc, on travaille régulièrement avec la consultation mémoire, avec l'équipe mobile Alzheimer, avec les accueils de jour. Donc là, dès qu'on a un problématique, on se retourne forcément auprès des professionnels de santé.
Et alors donc, vous, sur votre sur le département, vous vous organisez...
Aujourd'hui, on est plus de 100 bénévoles sur le département. On a 5 antennes qui fonctionnent une ou deux fois par semaine, chaque semaine. C'est pour ça qu'on a 100 bénévoles. Ils sont tous formés. Hein, je dis toujours, et j'ai rien contre les comités des fêtes, mais je dis toujours, on ne peut pas devenir bénévole Alzheimer comme on devient bénévole d'un comité des fêtes. Un bénévole reçoit minimum une formation de 4 jours. Mmh. Qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer et qu'est-ce que c'est que la prise en charge de l'aidant, puisque dans un malade Alzheimer il y a souvent deux malades, mais on a le malade lui-même et l'aidant familial.
Et ce maillage départemental, on le retrouve à l'identique sur tout le territoire français?
Alors il y a des antennes, il y a des associations plus ou moins importantes dans chaque département, ça dépend le dynamisme du président.
D'accord,
mais on a quand même... oui, il y a beaucoup de... Il y a 96 ou 98 associations en France. Hein.
D'accord.
Il y en a au moins un dans chaque département.
Et est-ce qu'on sait combien il y a de malades diagnostiqués Alzheimer en France?
Alors en France, il y a plus d'un million de malades en France. Ce qu'il faut savoir, c'est sur le Loir-et-Cher, on est aux alentours de 5000 malades.
D'accord. Et est-ce que... Je sais pas, il y a des lieux géographiques qui sont entre guillemets plus propices à la maladie ou c'est vraiment uniforme sur le territoire en fonction évidemment de la densité de la population?
Oui, alors là vous posez une question épidémiologique, savoir s'il y a des régions plus propices comme on en parlait pour les cancers par exemple.
Voilà.
Non.
Non.
Non, très clairement non.
Et les tranches d'âge non plus?
Alors les tranches d'âge, oui. Oui, les tranches d'âge, le premier facteur de risque c'est l'âge.
Oui.
C'est-à-dire, plus vous vieillissez, plus vous avez de chances, en fait, d'avoir la maladie.
Parce que là aussi, ôtez-nous d'un doute ou confirmez la rumeur ou non, mais c'est vrai qu'on entend dire que c'est la maladie d'Alzheimer atteint des personnes de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est vrai?
Non.
Non.
Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Non, c'est pas plus jeune, c'est qu'on les dépiste mieux.
D'accord, c'est une question de connaissance,
d'information.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Quand vous avez 50 ans, c'est toujours difficile d'aller consulter un médecin pour vous demander si vous avez la maladie d'Alzheimer. Donc c'est pour ça que c'est important. Plus on parle de ça, plus on les prend en charge tôt. Ça évite de les voir à 60 ans complètement, malheureusement, atteints de façon sévère. Voilà.
Et vous avez dit tout à l'heure, je reviens vers vous, vous avez dit tout à l'heure, au niveau politique, ça a mis 20 ans à se réveiller, en fait, à ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes non pas satisfait, mais disons que le partenariat et le dialogue est bien établi, en tout cas localement?
Alors, ce qu'il y a vraiment... Enfin, moi, je suis président depuis 2002 en Loir-et-Cher, mais... qui a beaucoup aidé et porté la maladie d'Alzheimer, c'est le plan Alzheimer 2008-2012.
Vous pouvez nous...
Comme il y a eu le plan cancer
Oui, vous pouvez
avant,
nous expliquer ce que
mais,
c'est.
Mais le plan Alzheimer a beaucoup porté, et, a beaucoup fait développer les choses. Effectivement, moi, enfin, je suis un ancien aidant familial. Moi, je parle de l'année 96-97, donc il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas de consultation mémoire, il n'y avait pas d'accueil de jour. Il n'y avait pas... Enfin, il n'y avait rien, quoi. Il y avait un médecin, un neurologue, qui venait une demi-journée par semaine au centre hospitalier de Blois. Aujourd'hui, ils sont 10 médecins à la consultation mémoire. Donc, la prise en charge a complètement évolué, complètement changé, et tant mieux. Mais,
c'est quoi ce plan, excusez-moi, ce plan Alzheimer de 2008, ça a consisté en quoi?
Bah, le plan Alzheimer a mis en place la formation des aidants, a permis la création des accueils de jour, a permis la création de la consultation mémoire, a permis beaucoup de choses, en fait, de développer beaucoup de choses dans les structures hospitalières. Et ça tant mieux, parce que, bon, par contre, on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça que la manifestation ce week-end permet aussi de communiquer, hein, puisque, effectivement, on pense souvent malade Alzheimer, sujet âgé. Mais on veut qu'à travers, cette fois-ci, des plus jeunes, qu'on puisse faire parler de la maladie.
Vous, docteur, vous avez rencontré le papa de Julien à l'occasion d'une consultation. C'est comme ça que vous avez connu Julien et vous êtes occupé du papa de Julien, en fait. Et vous en occupez toujours ?
Alors, oui, c'est
chez vous.
C'est une histoire comme nous en vivons tous les jours dans le service. On m'a parlé d'un malade qui avait des troubles du comportement. Et il est arrivé dans le service. Et puis, progressivement, on a fait le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et Julien, j'étais amené à le voir donc, parce qu'il voulait me rencontrer pour avoir des informations sur son papa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Etc. Et donc, on a longuement parlé. Et puis ensuite, il m'a posé la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider à l'hôpital, pour aider à faire connaître la maladie d'Alzheimer Et c'est là qu'en discutant, je parle de M. Horto, et on pourrait envisager de faire quelque chose, une action. Et il me dit, écoutez, voilà, moi je suis sportif, je cours. Et peut-être qu'on pourrait faire une manifestation autour de la course. Et je dis, banco. Banco. Et par contre, quand j'ai appris que c'était 24 heures...
Ah, ça y est, là, je suis tombé sur un fou.
Là, je lui ai dit... là, vous êtes un fou, mais un fou génial. Il faut des passeurs d'alerte comme ça. Il faut des gens qui, dans leur folie, emmènent du monde. Ça va faire connaître cette maladie. Je trouve ça fantastique. Bon, et puis c'est un professionnel de la course, donc il sait ce qu'il fait, quoi. Et donc, son papa, on s'en est occupé. Il était content de cette prise en charge. On l'a complètement apaisé. Maintenant, il est dans un autre service de la Roselière. C'est plus moi qui le prends en charge, maintenant. Donc, j'ai des échos régulièrement. Je viens le voir de temps en temps aussi. Et voilà, je suis content que finalement... voilà, d'une situation dramatique, on en fasse une fête. Mmh. C'est magnifique, hein,
oui,
en fait, comme
oui,
idée.
Oui, tout à fait.
C'est, voilà, là, comme quoi la mort n'est pas la fin en soi. Mmh. C'est de redonner de l'énergie aux plus jeunes. Quand je vois les pom-pom girls à 6-7 ans en train de se trémousser pour une histoire dramatique, c'est fantastique.
Ouais, ouais.
Fantastique. Il faut en faire la fête. C'est la fête d'Alzheimer. Alors, j'ai dit tout à l'heure à... Je m'arrête après.
Allez-y,
les micros sont ouverts. Allez-y.
Voilà,
profitez-en.
Je profite du micro, toujours dans l'histoire avec Julien, Renaud et son papa. Et en venant, j'explique à Julien, je dis, écoutez, je viens d'explorer et d'interroger les dieux, et en particulier les dieux Alzheimer. Et je lui dis à Julien, les dieux Alzheimer sont avec vous pendant 24 heures, donc vous allez réussir. Voilà.
Bien, je ne sais pas si Julien nous écoute en courant.
Ils sont en train de passer devant nous, là, actuellement. Et le peloton est toujours composé vraiment de 5 personnes depuis le début.
Ouais, ils tiennent le coup, hein, quand même.
Lui, évidemment, il n'a pas bougé, mais il y a un turnover qui s'opère. Mika vient d'arriver après avoir couru 3h30. Ah non, 3 tours de terrain. 6 tours de terrain, donc 6 km pour toi.
Ouais.
Alors, pour revenir un petit peu à cette maladie, le parcours habituel, s'il y en a un, pour le malade, à partir du moment où il est diagnostiqué, il peut imaginer rester combien de temps à son domicile avec des aides ? Est-ce que ça s'est matérialisé, ça, ou
Alors ça, c'est notre objectif. C'est notre objectif premier. Voilà, on en est à tel stade de la maladie.
Il y a des échelles dans la maladie qui sont déjà bien déterminées désormais.
Il y a trois stades. Léger, modéré et sévère.
D'accord.
Voilà. Et bien sûr, les gens ont très peur de se retrouver dans une institution, dans une maison de retraite, un EHPAD, on appelle ça comme on veut. Et donc, je leur dis, mais attendez, non. Nous, notre objectif, c'est de vous maintenir à la maison le plus longtemps possible. Et quand on démarre comme ça, la discussion, si vous voulez, là, on peut aller loin. Parce qu'il y a une confiance. C'est une histoire qui va durer pendant des années. Donc, il faut absolument une confiance entre le médecin et la famille. Et donc, on les rencontre régulièrement et on construit tout ce maillage avec lui. On est le gage, bien sûr, médical. Mais c'est très important, très, très important de s'organiser à la maison. Alors, on ne peut pas dire si c'est au stade sévère, au stade modéré, jusqu'où on peut aller. Mais maintenant, les aides à domicile sont aussi très bien formées. Savent y répondre. Nous, on est vraiment en lien avec toutes les auxiliaires de vie, les infirmières à domicile, etc. Donc, on va loin.
Et j'imagine que le temps au domicile dépend aussi des aidants. Un malade qui n'a pas la chance d'avoir des aidants proches, j'imagine qu'il doit devoir aller dans une unité spécialisée beaucoup plus tôt que celui qui est entouré par son conjoint, ses enfants et...
Monsieur Horto le disait tout à l'heure, ce qui est très important, c'est de soigner autant le malade que le conjoint ou les enfants. Donc, il faut le repérer très tôt et il faut s'intéresser autant à l'un et à l'autre, si vous voulez que les choses tiennent dans le temps. Et puis, il y a aussi essayer de savoir indirectement par les professionnels si tout se passe bien à domicile.
Oui, monsieur Horto, vous disiez tout à l'heure, enfin, hors micro, quand on en a discuté, vous disiez qu'il y a des familles vraiment dans le désespoir total, quoi, complètement démunies.
Ah ben, même nous, des fois, on est complètement démunis.
C'est assez terrible, quoi. Enfin.
Je fais appel au docteur Mercier ou à la consultation mémoire pour savoir comment on peut prendre en charge de façon urgente cette famille, parce qu'il y a des familles, il faut savoir que 70% des familles ne se font pas aider, c'est-à-dire qu'ils portent à eux seuls.
70%
leurs malades.
C'est énorme.
Et qu'à un moment donné, ils sont à saturation et qu'ils sont complètement désemparés. Donc, d'où la prise en charge urgente. Mais on veut éviter justement ça. Et la manifestation aujourd'hui, c'est ça aussi. C'est d'en parler, c'est d'informer, c'est de déculpabiliser, c'est de se faire aider et pas de dire je fais tout, mais je fais. Je donne pour faire à la place d'eux. Enfin,
De passer le relais, d'accepter
relais,
finalement.
D'accepter.
De passer le relais, oui.
Et pour revenir à ce que disait le docteur Mercier, effectivement, c'est le docteur Mercier qui m'a fait connaître Julien Renaud. Et quand je l'ai rencontré la première fois, j'ai tout de suite accepté sa démarche parce qu'on partage. On partageait les mêmes problématiques. Enfin, moi, c'était il y a 20 ans, mais voilà, on avait un malade jeune tous les deux. Donc,
vous saviez de quoi vous parliez.
Exactement. Je me suis partagé dès le départ.
Ouais, ouais. Bon, on peut ressouligner effectivement toute l'énergie de Julien en collaboration avec les associations à organiser cet événement qui est vraiment réussi. Et puis, Christophe, une dernière question peut-être avant de faire une petite pause musicale où on a fait un peu
non,
près...
Non, mais peut-être que vous voulez ajouter quelques informations.
Oui.
Les mercredis après-midi à la Roselière à Blois, on a un accueil des malades et on a un accueil des familles entre 14h30 et 17h30 tous les mercredis à la Roselière sur Blois. Après, on a Vendôme, Romorantin, Saint-Aignan, Montrichard. Et puis la dernière phrase que je voudrais dire, c'est le défi aujourd'hui, c'est de pour ne pas oublier ceux qui ont tout oublié.
Ça sera le mot de la fin.
Ouais, peut-être donner un contact pour les gens qui voudraient entrer en contact avec vous, une adresse internet.
Alors 02 54 56 04 86. 02 54 56 04 86.
D'accord. Et là, on tombe sur...
Alors, voilà, le mercredi après-midi, hein, principalement. D'accord. Sinon, entre 14h30 et 17h30.
Sinon, il y a un répondeur.
Sinon, il y a un répondeur.
Ok, bah, effectivement, on peut se faire une pause musicale.
Bah voilà.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir éclairci un peu notre représentation de la maladie.
Merci de nous avoir invités.
Merci à vous. Merci bien.